Je suis contente d'être avec vous ce matin. C'est vraiment une joie pour moi de partager la parole avec vous. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage à la bienveillance. Donc, on va parler de la bienveillance ensemble. Et ensemble, on va voir une définition de ce qu'est la bienveillance. La bienveillance, c'est avoir de bonnes dispositions à l'égard de... Voilà, je vais vous répéter régulièrement cette phrase. C'est vraiment avoir de bonnes dispositions à l'égard de, et il y a ces trois petits points, et vous mettez qui vous voulez après les trois petits points. La bienveillance, elle est animée par l'amour, la considération. C'est un choix de vie. Elle engage ma volonté à l'égard de l'autre. Elle est intentionnelle. Elle permet un positionnement sain et équilibré qui dispose à de bonnes relations. Elle est une valeur structurante. Elle est la base pour poser de bonnes limites dans nos relations. Elle est dénuée d'intérêt pour soi-même. Elle recherche l'intérêt de l'autre. Elle est un langage. Un enfant qui vit avec un entourage bienveillant va apprendre et va devenir bienveillant en apprenant de la relation que l'adulte a avec lui. Elle s'apprend, et ça c'est une bonne nouvelle. Notre cerveau est un muscle, et sans cesse il est en apprentissage, sans cesse il expérimente. C'est encourageant que notre cerveau peut encore évoluer. Moi en tout cas ça me fait du bien de le savoir. Nous pouvons apprendre à devenir bienveillant et nous perfectionner à la bienveillance. La bienveillance donne confiance en soi. Elle produit de l'ocytocine. Vous vous souvenez de l'ocytocine ? On en a parlé dans le message sur le lien d'attachement à Dieu. Vous pouvez le regarder sur la chaîne YouTube. C'est le message du 22/05/2020. Et on avait parlé de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être et du plaisir. À l'inverse, quelqu'un qui serait dans une relation malveillante à l'égard de l'autre va détruire, va blesser. Souvent, il communique par la colère, le jugement, la critique. Souvent aussi, ça va être quelqu'un qui va se sentir au-dessus de l'autre, le mépriser. Il va chercher son propre intérêt dans la relation à l'autre. Il va chercher ce qu'il peut tirer comme avantage de l'autre. Et la relation malveillante peut exiger de l'autre ce qu'il ne peut pas donner. Voilà une définition approximative qui nous permet de voir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Cette semaine, Cédric Guillermin, président du DEF, le DEF c'est la dynamique enfant-jeunesse du département face famille des ADD, lors de son introduction à la semaine de prière pour l'enfance et la famille, il a écrit « À la fin de notre vie, ce n'est pas ce que nous aurons accompli qui va compter, mais plutôt ce que nous aurons été et ce que nous aurons laissé, un bon goût ou un goût amer. » Je trouve que cette citation, elle est intéressante parce qu'elle résume les conséquences d'une relation bienveillante à l'autre. Alors je vous propose maintenant qu'on voit en deux parties la bienveillance de Dieu à notre égard, et j'ai trop aimé la louange, merci l'équipe louange. On peut vraiment sentir la bienveillance de Dieu à notre égard, notamment dans la louange, où on sent sa présence, on se sent entouré. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Tu es devant moi, tu es derrière moi et tu m'enveloppes ». Oh, c'est tellement beau, moi j'aime tellement, je kiffe ces moments-là, là. C'est ressourçant, c'est tellement bienveillant. Alors on verra la bienveillance de Dieu à notre égard et la bienveillance les uns pour les autres. Alors voyons maintenant d'abord la bienveillance de Dieu à notre égard. Nous croyons que Dieu est Seigneur et qu'il est roi. Yes. Le psaume 146 au verset 6 dit « Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. » Et on passe quelques versets. Verset 10 « L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, il est Dieu au-dessus de tout, de toute chose. Rien n'est semblable à lui. Rien ne le limite. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu si grand, si puissant. Un Dieu si grand et si puissant. Souvent quand je regarde la mer, je me rends compte de l'immensité de Dieu. Parce qu'il y a cet horizon, il n'y a pas de limite. Et pourtant, c'est qu'une partie de son œuvre. On pourrait croire qu'un Dieu si grand et si puissant pourrait être loin de nous. Souvent d'ailleurs, les hommes, les dieux puissants, ils les ont représentés très grands. Dans l'Antiquité, on voyait des grandes statues et des grands personnages qui ne nous ressemblent pas, physiquement hyper beaux, nickel, très grands, très forts. Et peut-être que parfois, on peut s'imaginer que Dieu est comme ça. Et pourtant, c'est un Dieu qui désire une relation, qui désire une relation de proximité. Il accueille chacun. C'est une bonne nouvelle. Il nous aime tellement qu'il est bienveillant avec nous. Il est attentif à chacun. Il connaît et prend soin de nos besoins. Il y a le psaume 146 au verset 7 à 9 qui dit « Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes, protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et l'orphelin. Il invite toute personne à placer sa confiance en lui. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas de chouchou, hein. Nous pouvons tous trouver refuge en lui. Peu importe notre situation économique, sociale ou notre âge, nous tous, là, ici présents, Dieu nous accueille. Et il est attentif à nos besoins. Il nous aime, tel que nous sommes, là où nous en sommes. Il n'est pas ce Dieu qui accuse ou nous écarte de la moindre erreur. Il n'a pas un discours accusateur. Il reste fidèle malgré sa puissance. Il veut que nous sachions qu'à tout moment, nous pouvons venir à lui, conscients d'être acceptés, nous sentir en sécurité en sa présence et l'appeler « Papa ». Vous savez, on chante ce chant « Abba Père » qui veut dire « Papa ». C'est avec cet amour-là que Dieu nous aime. Dans Exode, au chapitre 34, verset 6, il est dit « L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Ces versets, nous les connaissons, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se laisse imprégner dans la présence du Saint-Esprit, dans l'amour de Dieu, pour pleinement vivre ce Dieu relationnel qui attend une relation de proximité avec chacun d'entre nous. Et il nous aime là où nous en sommes. Il est aussi ce Dieu structurant. Il est structurant parce qu'il a responsabilisé l'homme. Il lui a donné des responsabilités et il lui a aussi fixé des limites. Dans Genèse au chapitre 2, verset 9, il est écrit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. » Et au verset 16, « L'Éternel Dieu ordonna à l'homme « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de la détermination du bien et du mal. » De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a béni Adam et Ève par les biens de ce jardin. Ça devait être trop bien quand j'ai relu ces fruits agréables et bons, là. Je me dis, moi, je cherche ici des producteurs où on peut vraiment trouver des fruits qui ont du goût, mais là, au jardin, ça devait être tellement super. Ils pouvaient y aller, puis hop, se dire, tiens, je mangerai bien ce fruit-là. Et hop, ils y allaient, ils mangeaient. Et en plus, c'était délicieux, il n'y avait pas de pesticides, rien, tout était bien. Ils ont vraiment été bénis. Et on voit que Dieu va responsabiliser Adam et Ève avec ce jardin. Au verset 15, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Waouh ! Moi, j'aime bien aller au potager pour me détendre, essayer de faire pousser quelques petites tomates, des fraises. Et ça, c'est tellement bien, mais un jardin, on peut imaginer la dimension, la beauté, les couleurs, les odeurs. Waouh, ça devait vraiment être super. Dieu a une relation structurante pour l'homme. Il le responsabilise. Il aurait pu juste nous faire marionnettes et nous dire « tu fais ça et tu fais ça comme ça et comme ça ». Mais non, il nous responsabilise. Il nous fait confiance. Il a confié à Adam et Ève son œuvre. C'est pas rien quand même, hein? Quand on fait quelque chose de beau ou de bon, hein, quand on est dans la cuisine, qu'on a mis des heures à préparer un super bon plat, il y a quelqu'un qui vient nous dire « Tu veux de l'aide ?» Non, ne viens pas toucher à mon œuvre. Ou alors j'imagine si on peint un tableau, ça prend des heures, ça prend du temps, on y met de la transpiration. Et quelqu'un qui vient qui dit « Oh, je pourrais mettre une petite touche de couleur ?» Non. Mais lui, Dieu, fait confiance aux hommes, il les responsabilise et il les laisse y mettre leur touche. C'est magnifique. Je pense par exemple que pour prendre soin des jardins du château de Versailles, les recruteurs ne vont pas me prendre moi. Ils ne vont pas prendre quelqu'un qui ne sera pas formé. Ils vont prendre le meilleur paysagiste. Parce qu'ils veulent que ces très beaux jardins soient cultivés selon un art, selon une façon de faire. J'imagine que ce paysagiste, trop la classe quoi, on lui demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Bah, je suis paysagiste du château de Versailles. » Il doit être fier. Adam devait prendre plaisir à prendre soin de ce jardin. Il devait vraiment prendre un grand plaisir à manger les fruits. Et il devait être tellement fier de cette responsabilité donnée par son Créateur. Je crois que cela lui permettait d'avoir une bonne estime de lui-même. Parce qu'il voyait que Dieu lui faisait confiance. Dieu l'aimait. Qu'il était important aux yeux de Dieu. Il se sentait aimé et considéré par Dieu. Ça, c'est structurant et c'est valorisant. La bienveillance, de bonnes dispositions à l'égard de, c'est structurant et bienveillant. Ça nous construit et ça nous nourrit. Dans ce côté structurant de Dieu, on voit aussi qu'il pose des limites. Parce que dans la bienveillance, il y a aussi le fait de poser des limites. Dieu pose des limites à l'homme pour son bien. Mais en même temps, il le laisse toujours libre de ses choix. Il le crée responsable et autonome dans ses choix, ce qui est une attitude très bienveillante. Dieu donne vie à Adam et Ève et il leur donne l'arbre de vie qui les alimente. Mais l'arbre de la détermination du bien et du mal est interdit. La limite a été posée, elle était claire. En mangeant, c'est vouloir décider soi-même de ce qui est bien, de ce qui est mal, indépendamment de Dieu. Alors que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Adam et Ève dépassent ses limites, mangent du fruit du bien et du mal. Pourtant, Dieu les avait prévenus qu'en mangeant, ils mourraient. Les limites étaient énoncées clairement. Ils savaient que la liberté dont ils bénéficiaient avait une limite et que cette limite, elle était pour leur bien. Il était interdit de manger du fruit de l'arbre de vie. L'arbre du choix entre le bien et le mal. Et au-delà de cette limite, il y avait la mort. Dieu est un Dieu structurant. Il nous crée autonomes et responsables, mais pas indépendants. Il nous donne les capacités d'agir. Il nous fait confiance dans ce qu'il nous confie et nous équipe au fur et à mesure. C'est encourageant. Il est patient. Il nous laisse le droit à l'erreur. Quel Dieu bienveillant. Il nous permet d'apprendre. L'erreur permet d'apprendre. Et nous avons aussi vu que Dieu est un Dieu juste qui pose un cadre, des limites pour notre bien. Les lois données à Moïse nous permettent de vivre ensemble et heureusement qu'elles sont là. Autrement, je crois qu'il y aurait plus de morts. Hein. On s'entretuerait, vraiment, je crois. Je vous donne juste un petit exemple cette semaine. Alors, on habite à la campagne, il y a des virages. Et il y a quelqu'un qui est arrivé sur moi, j'ai pilé. Il devait rouler à 90 dans les virages. Et là, ma bienveillance est partie. Et là, dans ma tête, a commencé à se mettre une stratégie. Je me suis dit, oh Sandrine, t'es affreuse. Les émotions, hein, parfois, la peur, la colère. Heureusement qu'il y a eu cette loi pour ne pas s'entretuer. Je crois réellement qu'on tuerait beaucoup de personnes. Dieu est plein de bonne, de bienveillance à notre égard. Il est inspirant dans son amour pour que nous développions de la bienveillance dans nos relations les uns avec les autres. Voyons maintenant la bienveillance les uns avec les autres. Alors, pour en parler, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un papa s'interroge sur la qualité de l'amour qu'il témoigne à son fils de 3 ans. C'est Hugo. Était-ce un amour inconditionnel ? Au moment où il réfléchit à cette question, son fils entre dans le salon. Alors, il demande à son fils : « Hugo, sais-tu pourquoi papa t'aime ?» Il le regarde et lui répond aussitôt : « Parce que maintenant je fais pipi dans le pot. » Sur le moment, il s'est senti très triste, le papa, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas penser autrement. Il suffisait de voir la manière dont il s'adressait à son fils quand il lui demandait et que le fils ne faisait pas. Alors le papa lui dit : « Hugo, je suis heureux que tu fasses pipi dans le pot maintenant, mais ce n'est pas pour cette raison que je t'aime. » Il me demanda : alors, c'est parce que je ne jette plus de nourriture par terre ? Il faisait référence à un incident qu'il avait eu la veille lorsqu'Hugo avait jeté des aliments par terre. Une fois de plus, son papa lui dit qu'il appréciait qu'il ne jette plus de nourriture par terre, mais que ce n'était pas pour ça qu'il l'aimait. Il prit alors un air sérieux, Hugo, à 3 ans, et demanda à son papa : mais alors pourquoi tu m'aimes, papa ? À cet instant, le papa s'est demandé comment il avait pu engager une conversation aussi abstraite sur l'amour inconditionnel avec un enfant de 3 ans. Comment parle-t-on d'un sujet comme celui-là à un enfant de 3 ans ? Et il répondit comme ça, ça lui est venu au papa : eh bien, je t'aime parce que tu es toi. Sa première pensée fut alors que cette réponse était banale et abstraite. Mais il comprit et il vit dans le regard de l'enfant que l'enfant avait saisi le message. Le visage de Hugo s'éclaircit et il dit à son papa en le regardant : oh, tu m'aimes parce que je suis moi, papa ? Tu m'aimes parce que je suis moi ? Les 2 jours qui suivirent, il accourait vers son papa toutes les 10 minutes en tirant son pantalon, en le regardant et lui disait : tu m'aimes parce que je suis moi, papa ? Tu m'aimes parce que je suis moi, papa ? C'est une histoire vraie. On voit par cette histoire que nous communiquons souvent notre amour à l'autre et en particulier aux enfants pour ce qu'ils font. Mais moins souvent pour ce qu'ils sont. La bienveillance qui se manifeste par un amour inconditionnel ne devrait pas être ponctuée par nos exigences, non remplies ou remplies, ou par des conditions, ou par des récompenses. Mais manifester de l'amour, de la considération à l'autre est plus fort si elle est gratuite et sans condition. Il y a ce verset dans Romains 12, 10 qui dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » La bienveillance ne devrait pas se traduire par du chantage émotionnel. « Fais ce que je veux ou je vais me mettre en colère et craquer. » Ça, je pense que ça nous parle. Ni par la culpabilité. Comment peux-tu agir ainsi après tout ce que j'ai fait pour toi? Ni par la maladie sans fin. Ne m'énerve pas. Tu ne vois pas que je me sens mal? Ni par le secours d'outre-tombe. Ton regretté père aurait été d'accord avec moi. Ni par l'humiliation. Fais ce que je veux ou je t'embarrasse devant tout le monde. Ni par la manipulation spirituelle. Dieu nous a demandé de pardonner, alors pardonne et oublie tout. Voilà des outils puissants que nous pouvons utiliser pour faire plier les autres à notre volonté. La manipulation est un jeu ouvert à tous, et parfois même dans l'intimité des foyers. Mais ceux qui s'y livrent le payent très cher. Haine, ressentiment. Il est parfois nécessaire de s'écarter de relations toxiques qui détruisent, qui atteignent la dignité pour se protéger. La Bible nous donne la solution. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Si nous avons de la considération les uns pour les autres, si nous nous sentons d'égal à égal, Laurent en parlait tout à l'heure. Si nous sommes nous-mêmes respectueux, si nous ne faisons pas de comparaison, si nous allons là où l'autre en est, alors nos relations seront plus saines les uns avec les autres. Nous manifesterons une bonne disposition à l'égard d'eux. Nous manifesterons la bienveillance. En conclusion, dans sa bienveillance, Dieu ne nous a pas abandonnés quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre du mal et du bien. Pourtant, il y a eu des conséquences graves. Ils ont été bannis de ce jardin, séparés de la relation directe avec Dieu. Ils ont été mis face à la mort, à la souffrance. Mais Dieu, dans sa bienveillance, aimant l'humanité, a choisi d'envoyer Jésus, son Fils, sur la terre, que pour que nous puissions être pardonnés de nos erreurs, de nos péchés. Jésus a accepté de souffrir, d'être séparé de son Père un moment pour porter tous nos fardeaux. Quelle bienveillance! Par sa grâce, par son amour, nous sommes pardonnés. Nous pouvons être sauvés si nous nous en remettons à lui. Nous pouvons les uns et les autres être des porteurs de bienveillance. Nous pouvons les uns et les autres, et pour toutes les personnes que nous croisons dans notre vie, transmettre de la bienveillance. Ainsi, nous sommes des ambassadeurs de l'amour de Dieu. La bienveillance est une valeur essentielle du renouvellement de notre intelligence et de notre personnalité. Elle peut être à redécouvrir et à travailler pour chacun d'entre nous. Si vous voulez, on va prendre un temps de prière. Peut-être Didier, j'ai vu qu'il jouait au piano tout à l'heure. Peut-être on peut avoir ce moment où on va se placer devant Dieu. On aimerait tous être bienveillants comme Dieu est bienveillant. Mais nous ne sommes pas Dieu. Alors, il faut que nous apprenions. Souvenons-nous que le cerveau est un muscle que nous pouvons apprendre. Nous avons peut-être fait des erreurs par malveillance. Tous, nous en avons fait. Et nous en ferons encore. Mais soyons animés par la bienveillance. Demandons pardon à ceux à qui, et notamment à nos enfants, ou nos neveux, nos nièces, quand nous avons été malveillants, quand nous avons manqué de bienveillance. Nous pouvons demander à Dieu de vivre encore plus sa bienveillance. Nous pouvons lui demander de transpirer sa bienveillance. Il peut nous aider à nous améliorer dans la bienveillance, à avoir de bonnes dispositions à l'égard d'eux. Alors soyons des chrétiens engagés dans la bienveillance. Laissons-nous transformer pour être bienveillants, porteurs de son amour. Oui, notre Père, merci. Vraiment merci. Nous voulons déjà te louer, t'adorer parce que tu es ce Dieu bienveillant à notre égard. Merci parce que tu m'aimes tel que je suis. Merci parce que tout cela, tous réunis, tu nous aimes. Malgré ce que nous avons fait, malgré nos imperfections, tes bras sont grands ouverts et tu nous accueilles. Tu nous accueilles dans cet amour parfait. Alors nous venons vers toi, nous courons dans tes bras. Nous venons vers ce refuge. Ah oui, vraiment merci. Merci pour cet amour inconditionnel. Saint-Esprit, nous te demandons toute ton aide pour que nous soyons porteurs de cette bienveillance, que nous nous encouragions les uns et les autres à être bienveillants, que nous vivions la bienveillance, que nous la transpirions. Viens nous aider, viens nous remplir de ton amour, Seigneur. Ah oui, Jésus, merci, merci. Et que nous soyons ces ambassadeurs de ton amour. Dans ce monde, que le monde reconnaisse que nous sommes porteurs d'une bienveillance exceptionnelle. Ah oui, Jésus, merci. Merci, notre Père, pour ta grâce et ton amour. Merci pour qui tu es. Merci pour ta patience envers nous. Et merci parce que tu nous fais confiance. Vraiment, sois béni. Ton amour est structurant. Ah oui, vraiment, merci. Merci, que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.